Radio Kapi.
Oh, Kapi.
En 4 jours, 12 décès ont été enregistrés parmi les déplacés qui vivent dans la région minière de Mungwalu, dans le territoire de Djougou. Des notables locaux lancent un appel au gouvernement et aux humanitaires pour secourir en urgence plus de 40 000 personnes qui manquent de tout, soins médicaux et nourriture notamment, sans parler des conditions précaires d'hébergement. La responsable des urgences à l'OMS avertit depuis Genève que la RDC est au cœur d'une catastrophe sanitaire grandissante. Les épidémies se sont gravement détériorées ces derniers mois en raison des violences et des inondations. Il s'agit des maladies telles que le choléra, la rougeole, la méningite, la variole et la peste. Le directeur du bureau diocésain des œuvres médicales de Mbandaka et l'invité de ce journal, Olivier Nguila, supervise la distribution depuis mercredi des vivres venus du gouvernement à plus de 3000 ménages ayant au moins un enfant malnutri, une femme allaitante ou une femme enceinte. Bonjour à tous. En Ituri, 12 déplacés sont morts en l'espace de 4 jours dans la région minière de Mungwalu, à 85 km au nord de la ville de Bunia, dans le territoire de Djougou. Le manque de soins médicaux, de nourriture et les mauvaises conditions d'hébergement sont les principales causes de cette mortalité, rapportent des sources locales. Des notables de cette localité lancent un appel au gouvernement et aux humanitaires pour une aide d'urgence en faveur d'environ 40 000 nouveaux déplacés dans cette partie de la province de l'Ituri. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Depuis plus d'une semaine que la situation humanitaire se dégrade dans la cité minière de Mungwalu à cause de l'activisme des groupes armés dans plusieurs agglomérations du secteur de Banyalikilo. Des milliers de déplacés ont fui des violences des groupes armés à Lodjo, Plito, Kilo, Bianda, Galaï et se sont déversés à Mungwalu centre et sa périphérie. Selon le comité de gestion des déplacés, de nombreux cas de décès sont signalés dans leur campement à cause du manque de soins et de nourriture. Dieudonné Dezunga.
Il y a même des pygmées qui sont en train de croupir dans la misère. Parmi eux, il y a des moribonds, on pourra enterrer peut-être, si pas aujourd'hui, demain. Nous en avons déjà enregistré 12. Depuis 4 jours déjà, il y a les personnes de 3e âge et les enfants.
Des notables de cette entité indiquent que 9 cellules de recensement des déplacés sont mises en place dans les 7 quartiers de Mungwalu et sa périphérie. Si rien n'est fait dans l'urgence, ajoute-t-il, la situation humanitaire risque d'empirer dans cette commune rurale et sa périphérie. Jean-Pierre Bikilisende, député provincial élu du territoire de Djougou.
Mungwalu vivait de Plito, de Dala, de Kilo et de Bunia. Comme tous ces canaux-là sont coupés, donc même la commune est en difficulté.
Plus de 40 000 ménages sont déjà recensés par le comité des nouveaux déplacés. Celui-ci demande aux autorités militaires de rétablir la paix dans leur milieu d'origine. Bunia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
S'agissant toujours des déplacés au Nord Kivu cette fois, le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2 de la formation professionnelle et métier demande au gouvernement congolais et aux humanitaires d'initier en urgence des projets du secteur de formation professionnelle et métier pour aider ces déplacés à se prendre en charge de manière durable. Dans un entretien accordé à Radio Okapi Beni, Bertin Kalenda Salongo estime que l'apprentissage de courte durée des métiers et la dotation des kits de réinsertion aux déplacés leur permettrait de résoudre certains problèmes auxquels ils sont confrontés. Bertin Kalenda Salongo le dit au micro de Guylaine Kassassia.
Dans la région, nous avons initié un projet et ce projet consiste à la formation professionnelle et apprentissage de métiers en faveur des déplacés. Nous l'avons souhaité que ça se fasse juste dans des métiers de courte durée. Je prends l'exemple de la filière de transformation de produits agricoles, on peut les former dans peu de temps. La savonnerie, la boulangerie et pâtisserie, ça c'est une formation qui ne demande pas même plus de 10 jours. Et notre souhait était que dès que ces gens sont formés, qu'il y ait un bienfaiteur ou une organisation qui peuvent nous appuyer pour juste les accompagner avec un petit kit de réinsertion. Par exemple, quelqu'un qui a subi une formation de moins de 10 jours en boulangerie et pâtisserie, on lui accorde juste un sac de farine et la personne là peut automatiquement commencer à se prendre en charge que de rester en décommandé. Parce que la vie que nos compatriotes déplacés ont en train de traverser à ce moment, c'est une vie extrêmement difficile qui les envoie à toute forme d'antivaleur, leur prostitution chez les jeunes filles. Le gouvernement peut-être et le partenaire ne peuvent pas être à mesure de leur accorder à chaque jour à manger. Si nous trouvons un partenaire qui nous appuie en termes de fourniture, une petite collation pour les formateurs. En tout cas, notre souhait est que cette formation soit gratuite.
Pendant ce temps, sur le terrain des affrontements, les combats se sont poursuivis au troisième jour hier vendredi entre le 1-23 et un groupe armé local dans le groupement Bachali-Mokoto. C'est dans le territoire de Massissi. Selon plusieurs sources, ces combats se déroulent notamment sur l'axe Nyangi-Bibwe ainsi qu'autour des Bweru, près de Mweso. Bernard Nyangi revient sur la situation d'hier.
Vendredi matin, la position tenue par les groupes armés locaux a été la cible d'une attaque des rebelles du 1-23 dans le village de Bweru, près de Mweso. Quelques heures de combat après, les rebelles auraient pris le contrôle du village. Par ailleurs, les sources sécuritaires dans le Massissi indiquent qu'après avoir été délogés des villages Nyangi, Mpati et Bibwe, ouest de Bachali-Mokoto, mercredi, les combattants du groupe Alliance des nationalistes congolais pour la défense des droits humains sont revenus à la charge. À l'issue des combats signalés entre 18h et 23h jeudi, ils auraient repris le contrôle de Bibwe. Dans leur retraite, les rebelles du 1-23 sont accusés d'avoir incendié la position de l'ANCDH à Kitso et piller le village de Bibwe. Ce vendredi, surprise par des détonations soudaines d'armes lourdes et légères, les populations de Bweru, Kivuye et Miara restent coincées dans leur milieu, empêchées de sortir de la zone, disent certaines sources à Bweru Centre. Dans un communiqué officiel rendu public jeudi, le porte-parole militaire du gouverneur du Nord Kivu condamnait ces nouvelles attaques des rebelles du 1-23 en violation de la trêve humanitaire de 2 semaines recommandée par les États-Unis d'Amérique. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
La République démocratique du Congo est au cœur d'une catastrophe sanitaire grandissante, a averti hier l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Dans un point de presse hier à Genève, la responsable des urgences à l'OMS indique que les épidémies se sont gravement détériorées ces derniers mois en raison des violences et des inondations. Ce sont notamment les épidémies de choléra, de rougeole, de méningite, de variole et de peste. Des précisions dans ce reportage de Gisèle Cage, rendu par Babel Mpongo-Massimango.
La population est confrontée à des épidémies de choléra, de rougeole, de méningite, de variole et de peste, toutes exacerbées par de graves inondations et glissements de terrain qui touchent certaines parties du pays. C'est ce qu'a déclaré lors d'un point de presse régulé de l'ONU à Genève le docteur Adélaïde Marchand, responsable des urgences à l'OMS. Depuis le début de l'année, plus de 20 000 cas de choléra ont été recensés, la plupart dans le Nord Kivu. Plus de 65 000 cas de rougeole, dont 1523 décès ont été signalés, des chiffres réels étant probablement en plus élevé en raison de l'insuffisance de la surveillance de la maladie et de la communication des données. Dans le même temps, 3073 cas de méningite dont 251 décès sont également notifiés dans le pays. L'OMS est également préoccupée d'un variant de monkeypox depuis quelques mois en RDC. Plus de 11 000 cas dont 425 décès sont répertoriés avec un taux de létalité élevé de plus de 4%. Les enfants sont particulièrement touchés avec des taux de mortalité encore plus élevés. Les conflits armés et les déplacements des populations sont également des principaux facteurs d'insécurité alimentaire. Selon le dernier rapport du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, IPC, environ 40% de la population, soit 40 millions de personnes, sont confrontées à de graves pénuries alimentaires, dont près de 16 millions sont exposées à la menace d'une insécurité alimentaire.
Santé encore dans la province du Maniema. L'hôpital Île Africa, en partenariat avec Smile Train et la division provinciale de la santé du Maniema à travers l'hôpital provincial, lance la campagne d'opération gratuite des personnes qui sont nées avec la malformation communément appelée bec de lièvre ou encore fente labiale. Ces malades seront opérés gratuitement pendant 7 jours par une équipe de chirurgiens venus de Île Africa Goma, assistée par l'équipe de l'hôpital général de Kindu. Un appel est ainsi lancé aux autorités et aux notables du Maniema à sensibiliser les personnes concernées par un bec de lièvre ou fente labiale de passer à l'hôpital général de Kindu pour bénéficier de ces soins gratuits. Florence Kizalunga.
Accompagnés par le membre de leur famille, ces plaires sont ceux des enfants qui ont déjà été opérés et d'autres qui attendent l'opération. Erezo, Marie Kitete, qui a effectué avec sa fille de 8 mois plus de 400 km, explique comment ça s'est passé.
J'ai fait 480 km de Congo au Kindu pour venir soigner ma fille. L'enfant est sorti de la salle d'op en bon état. J'étais tellement heureuse quand elle était là-bas. Je n'avais pas même l'espoir, mais je vois que ça va.
Pour le chirurgien, Docteur Kabuya Yakakule, l'objectif est entre autres de remettre les sourires sur le visage de ses patients.
Cette réparation cible les enfants de 3 mois. Et puis, nous allons prendre à partir de cet âge-là jusqu'à l'âge adulte. Parce que l'objectif, c'est de remettre le sourire, de diminuer la stigmatisation de ces patients dans la communauté.
Ndarabu Daniel, d'une dizaine d'années, qui attend son tour, croit que tout ira bien.
Je suis ici à la salle d'attente, j'attends mon tour. Je n'ai pas peur de ce que Dieu va me dire.
Signalons que c'est le bloc opératoire moderne construit et équipé par Moïse Katumbi qui sert de cadre pour ses interventions. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Parlons infrastructure dans la province du Kwilu. La fin des travaux du barrage hydroélectrique de Kakobola, tant attendue, est finalement atteinte. Pour le moment, c'est l'étape des essais expérimentaux des réseaux. Déjà dans la nuit de jeudi 11 juillet, la cité de Gungu, chef-lieu du territoire du même nom, a été alimentée en énergie électrique. C'est le député national Rombo Foumani, qui est aussi un ingénieur civil, qui livre l'information. Il est au micro de Irène Mbomaluzolo.
Le projet Kakobola attend effectivement vers sa fin. Ce qui se passe là à Gungu, c'est les essais expérimentaux pour voir si le travail qui a été fait, il est bien fait, que les abonnés pourront avoir de l'électricité. Donc il faut passer par des essais. Là, c'était un essai qu'on est en train de faire et apparemment, comme il y a l'éclairage qui s'allume et tout, cet essai en charge peut être considéré comme étant bon. Donc la prochaine étape, c'est pour Gungu, le maître d'ouvrage que le gouvernement devra passer réceptionner l'ouvrage. Vous savez que Gungu, les travaux étaient terminés il y a bien longtemps, hein, par rapport à Kikwite et Idiofa, et Kikwite presque vers la fin aussi. Je crois qu'après l'étape de Gungu, les prochains essais vont se passer sur les réseaux de Kikwite et enfin sur les réseaux d'Idiofa. Tout le plaisir est à nous, nous sommes très contents. Nos remerciements à tous ceux qui ont contribué pour que ce travail arrive à la fin, et particulièrement au gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous pensons que l'avènement de l'électricité chez nous, particulièrement dans Gungu, Idiofa et Kikwite, ça va porter un déclic sur le développement socio-économique de la population. Ça va booster un tout petit peu l'économie de la province.
Au Congo central, la route qui mène vers le site de l'Université Congo en Banzangungu est très délabrée. Le recteur de l'Université Congo, professeur Germain Kouna, qui livre l'information à Radio Okapi, indique que la bretelle partant de la route nationale numéro 1 jusqu'au village Mbanzaluvaka de près de 1 km est aujourd'hui parsemée des gros bourbiers. Cette situation rend difficile l'accès au campus par véhicule ou par moto et oblige les étudiants et les enseignants à marcher jusqu'à l'université au moins 1 km. Demande l'implication des autorités pour la réhabilitation de ce tronçon routier. Professeur Germain Kouna, recteur de l'Université Congo, est au micro de Nana Plurich Mambou.
La route qui mène donc vers le site universitaire est une route de desserte agricole. Et il y a quelques villages qui envoisinent l'université. Et cette route est en état de dégradation très avancée. Lorsqu'il pleut, l'accès sur le site pose problème. Voilà pourquoi nous sommes en train de mener des plaidoyers au niveau du gouvernement provincial afin qu'on réhabilite cette route. L'idéal serait de l'asphalter parce qu'une route en terre, lorsqu'il pleut, elle retourne à la case de départ. Et comme vous le savez, la semaine passée, l'université a perdu 2 étudiantes à cause du mauvais état de la route. L'asphaltage de cette route non seulement va permettre aux étudiants d'accéder facilement sur les sites, mais aussi ça va faciliter les habitants de Mbanzaluvaka d'écouler facilement leurs marchandises.
Au sud Kivu, l'eau de la régie des eaux coule à nouveau au robinet dans la majeure partie de la ville de Bukavu qui en était privée depuis plus de 2 semaines. La population applaudit tout en demandant à la régie des eaux de dispenser ses abonnés du paiement des factures émises alors que l'eau ne coulait pas des robinets. Depuis Bukavu, Jean Kassami.
Le retour de l'eau dans les robinets, un grand soulagement pour la population de la ville de Bukavu. Hippocrate Maroumé, défenseur des droits des consommateurs dans la commune de Kadutu, s'en réjouit.
Pour la population, vraiment, c'est un signe de satisfaction. Nous pensons que la régie des eaux doit être conséquente maintenant, surtout en ce qui concerne le paiement des 2 semaines qu'on n'a pas pu être desservi. Nous demandons qu'on anticipe régulièrement. Tout doit être planifié au niveau de la régie des eaux.
La réparation que la régie des eaux vient d'effectuer sur ses installations va soulager sans interruption les abonnés de la ville durant 3 mois. Ignace Ilunga.
Effectivement, les travaux sont finis. Nous avions besoin de placer 2500 mètres linéaires de conduite en PHT de 400 mm de diamètre. Cela avait nécessité à peu près 1 200 000 $ que nous n'avons pas su mobiliser. Donc, nous sommes passés par la petite solution. Et ça va nous donner une certaine accalmie de manière à ne plus avoir des pannes fréquentes.
Le problème de manque d'eau à Bukavu est dû plus à la production qu'à la distribution. La capacité installée est de 42 000 m3 face à un besoin réel de 72 m3. Jean Kassami, Bukavu Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au moins 21 personnes, majoritairement des élèves, ont été tuées et 69 ont été blessées hier vendredi dans l'effondrement de l'école Sainte-Académie, un bâtiment de 2 étages à Jos, la capitale de l'État du Plateau, au centre du Nigeria. Selon l'agence France-Presse, la cause de l'effondrement n'a pas été clairement établie, mais selon des habitants, l'accident s'est produit après 3 jours de fortes pluies. Pour l'agence France-Presse, les effondrements de bâtiments sont assez fréquents au Nigeria en raison du laxisme dans l'application des normes de construction, de la négligence et de l'utilisation des matériaux de mauvaise qualité. Depuis 2005, au moins 152 bâtiments se sont effondrés à Lagos, selon un chercheur universitaire sud-africain enquêtant sur les catastrophes dans les secteurs de la construction.
L'invité.
En Mbandaka, province de l'Équateur, près de 3117 ménages bénéficient depuis mercredi d'un appui gouvernemental en vivres. Il s'agit des foyers ayant au moins un enfant malnutri, une femme enceinte ou une femme allaitante. Les bénéficiaires ont été ciblés par ce projet pilote initié par le Programme national de nutrition dans le Kasaï et l'Équateur. Pour en parler, nous recevons comme invité le directeur du bureau diocésain des œuvres médicales, Olivier Nguila, qui supervise la distribution de cette aide gouvernementale. Il s'entretient avec Paul Richard Malengela.
Monsieur le directeur, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous supervisez la distribution des vivres. Quel est vraiment le contexte de cette distribution?
En fait, le contexte, c'est un projet qui a été élaboré depuis 3, 4, 5 ans et ça n'a rien à voir avec les sinistrés d'inondation. Ça, je dois d'abord préciser. Au niveau national, le gouvernement avait ciblé la province de l'Équateur et puis l'une des provinces de Kasaï. Alors, c'est le coordonnateur national du programme national de nutrition, Dr Bruno, qui nous avait contacté, mais principalement la Caritas de la province écrasée de Mbandaka CPM et qui nous a associé la Caritas diocésaine pour que nous travaillions sur les projets et que nous procédions aujourd'hui là à la distribution des kits alimentaires, principalement dans la zone santé de Mbandaka, Wangata et Bolenge.
Après l'élaboration de ce projet, quelle était la population ciblée qui devait bénéficier de cet appui?
La population ciblée, il s'agit des ménages où nous pouvons avoir un malnutri, une dame enceinte et puis une dame qui allaite. Nous avons pris un échantillon et que sur cet échantillon, nous sommes entrés de travailler avec eux.
Quelle est la taille de cet échantillon?
L'échantillon est de 3117 ménages répartis dans 3 zones de santé.
Quels sont les aliments ou bien les suppléments qu'on est en train de distribuer à ces bénéficiaires?
L'équipe est constituée d'un sac de haricots de 25 kg, un bidon d'huile de 5 litres, un petit sac de sel de 5 kg et puis la quantité de farine de maïs n'était pas suffisante. C'est lorsque les vivres ont quitté Kinshasa pour Mbandaka, ça a pris beaucoup de temps. Il y avait beaucoup de maïs et haricots qui étaient avariés ou détruits par les intempéries et consorts. Raison pour laquelle la quantité que nous avons reçue de maïs nous a permis de prendre 2 ménages pour un sac de semoule de maïs et le sac de 25 kg.
Nous savons que la province de l'Équateur, c'est l'une des provinces agricoles du pays. Comment pouvez-vous expliquer beaucoup de cas de malnutrition dans la province?
Ok, il y a plusieurs paramètres. Ce n'est pas seulement dans les 3 zones de santé de Mbandaka ici. La DPS Équateur, c'est-à-dire la division professionnelle de l'Équateur, a 18 zones de santé. On peut avoir les malnutris dans presque 80% des zones de santé où nous avons ce genre de maladies.
C'est vraiment paradoxal.
Vraiment paradoxal, puisque la province de l'Équateur, c'est un grenier. Alors, on ne sait pas comment ça se fait, mais les paramètres sont nombreux. Nous pouvons avoir, dans un premier permettre le changement des mentalités. Les responsables des foyers ou des ménages n'ont pas encore compris que chaque parcelle doit avoir un petit jardin à côté. On peut avoir un peu de pondou, matembele, bitekute, kwe consort. Il y a aussi les paramètres de planning. Il y a des parents qui n'espacent pas trop leur naissance. La maman a 4, 5, 6, 7 enfants et vous allez voir l'écart entre les enfants, c'est une année et demie. Et les parents n'ont pas assez de moyens pour nourrir ou éduquer ces enfants-là.
Quand même chômeur.
Chômeur, et voilà, nous tombons dans des pareils cas. Il y a aussi une alimentation équilibrée. Avoir une alimentation équilibrée ne veut pas dire qu'il faut avoir des moyens. Puisqu'il y a des malnutris qui ont des moyens. L'obésité est une forme de malnutrition.
Ah bon?
Ouais, donc on peut avoir beaucoup de moyens. Quand on ne sait pas équilibrer son alimentation, vous tombez dans la malnutrition.
Selon vous, quand est-ce qu'on peut parler d'une alimentation équilibrée? Quelles sont les conditions?
Il y a beaucoup de nutriments. Il ne suffit pas seulement de consommer régulièrement l'amidon. Non, il faut équilibrer. Vous pouvez avoir les protéines à travers les aliments tels que les œufs, les légumes, les arachides et autres. Manger souvent du poisson, là-dedans, il y a beaucoup de nutriments. Alterner avec faire des manioc, les légumineuses, les haricots, les soja, et ça va aider à ce que vous ayez tous ces éléments-là. Mais lorsque vous a donné à manger que les pondous du 1er au 30, trop de viande, trop de maillots avec du pain, vous tombez dans la malnutrition ou bien l'obésité, je crois que c'est pas bon. Donc, il faut essayer d'équilibrer. Lundi, nous mangeons les pondous, demain, on peut prendre le matembele, l'autre jour, on prend un peu de poisson, surtout à l'Équateur, nous avons des pondés, le mayanga, les mungusu, et à bas prix, chaque famille, selon les moyens, peut faire en sorte que nous puissions régulièrement changer un peu notre alimentation pour avoir tous ces éléments-là. Ça va aider beaucoup de gens à éviter la malnutrition protéino-énergétique. Pas seulement pour les kwashiorkor, mais même pour les obésités.
Docteur Olivier Nguila, merci beaucoup d'avoir prêté de votre temps à Radio Capine.
Je vous en prie.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Un journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi et mis en onde par Jean-Noël Mokondo.